Vous écoutez RTL.
Tout de suite, on se lave ou pas dans la curiosité. Bonsoir, Delphine de Swart.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir.
Vous écrivez pour le magazine Né qui publie une série d'articles sur le propre et le sale. Cette question, on va le voir, y répondre de différents points de vue. Lesquels?
Le premier point de vue, peut-être le plus simple, ce serait le point de vue chimique. Parce que le propre et le sale, c'est d'abord des odeurs. Une odeur de sale qui est portée par des molécules. Il y a aussi un point de vue, une perspective médicale. Puisque tout le 19e siècle et le 20e siècle ont essayé d'aborder la question du propre d'un point de vue épidémiologique,
oui.
Mais aussi sociologique, d'un point de vue de classe sociale, oui. Que sent-on
Le business aussi, le marketing?
Entièrement, c'est une grosse industrie, la lessive, le gel douche, le shampoing et les parfums dans une certaine mesure qui doivent apporter le propre font partie d'une grosse industrie.
Tout ça pour séduire nos narines.
Et voilà, et il y a même le point de vue historique. On va aborder tous ces points de vue grâce à vous dans un instant dans la curiosité. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. Les odeurs de transpiration sont surtout causées par les bactéries sous vos aisselles. C'est pourquoi nous avons créé le nouveau...
Depuis l'Antiquité, il y a des odeurs que nous n'aimons pas, c'est des odeurs putrides, parce que ça rappelle aux humains leur condition de mortels voués à la putritude.
La curiosité est un vilain défaut.
Une protection contre les bactéries et les mauvaises odeurs. Nouveau, défense active. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Qu'est-ce qui est propre? Qu'est-ce qui est sale? Qu'est-ce qui sent bon? Qu'est-ce qui sent mauvais? Pour
dans
répondre
studio
à...
Non, en général.
On va commencer, on va éviter les questions personnelles pendant ce thème, si vous le voulez bien, Sidonie. En tout cas, pour répondre à ces questions toutes simples, on peut faire appel à la science, à l'histoire, à la sociologie et surtout à un magazine qui s'y connaît, le magazine Né. Bonsoir, Delphine de Swart.
Bonsoir.
Rebonsoir. Vous êtes experte du parfum, enseignante à l'université de la Sorbonne Nouvelle. Vous publiez l'un des articles du magazine Né consacré au propre et au sale. Le titre de votre article, hein, je cite, c'est « Je pue, donc je suis ». Pourtant, mais oui, pourtant on ne sent pas notre propre odeur. Tiens, on commence par ça. Pourquoi on ne sent pas son odeur?
En fait, le système de l'olfaction, c'est un système qui est fait pour détecter. C'est un système d'alarme. Et en fait, si on était en permanence en train de se sentir, en train de nous sentir, ça saturerait nos récepteurs et on pourrait plus prêter attention aux odeurs qui arriveraient potentiellement source de danger. Donc, en fait, on fait une mise au neutre de notre propre odeur, mais aussi de notre habitat, ce qui fait que souvent on oublie l'odeur de chez nous et quand on part.
C'est vrai pour le travail aussi. Il y a des métiers qui sont confrontés à des odeurs très très dures. Les métiers médicaux, par exemple, ils oublient, ils se rendent plus compte qu'ils ont ces odeurs autour d'eux?
Non, pas tout à fait. En fait, un anthropologue qui s'appelle Joël Kando, qui a été interviewé pour le magazine Né par Éléonore de Bonneval, montre très bien que ces professionnels sont encore choqués par cette odeur, puisque d'abord, selon les morts, les cadavres ne sentent pas la même chose. C'est une des odeurs les plus insoutenables. Composé d'azote, de soufre, de putrescine, de cadavérine, qui sont intolérables parce qu'elles témoignent de notre devenir aussi. Et elles sont toxiques, hein, des odeurs azotées, soufrées, c'est toxique pour le corps humain. Donc, ces professionnels, même s'ils sont habitués et tous les jours ils sentent des cadavres, continuent de ne pas accepter cette odeur. Et le professeur Kando raconte qu'il avait interviewé un thanatopracteur qui tous les matins, avant de travailler, vomissait. Et ensuite se remettait au travail. Donc, on ne peut pas s'habituer à cette odeur. Il y a même des techniques, hein. On met sous le nez des odeurs.
De l'eucalyptus. Faut rappeler ce que c'est, un thanatopracteur. C'est quelqu'un qui embaume les corps.
Voilà.
Des personnes décédées. Vous nous avez donné la composition de cette odeur de mort très précise. Il y a de l'azote, il y a du soufre. Est-ce que ces ingrédients-là, on les trouve dans toutes les mauvaises odeurs?
Oui, les atomes de soufre et d'azote se retrouvent dans les mauvaises odeurs, sont les marqueurs de mauvaises odeurs. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise odeur? Parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise odeur en tant que telle. A priori, il y a des odorants qu'on perçoit et que le cerveau transforme en odeur.
Ouais.
Et ensuite, la culture, notre éducation va faire qu'on va classer des odeurs en bonnes ou mauvaises. qu'on appelle classiquement une mauvaise odeur, c'est une odeur de corps qui s'oublie. En fait, c'est on dégage, on sécrète, et sur cette odeur, sur ces sécrétions, il va y avoir des bactéries qui vont dégrader la sueur, par exemple, qui a priori est inodore. Hein, la sueur, c'est de l'eau, des sels minéraux un peu durés, et c'est les bactéries qui vont transformer ça en une odeur nauséabonde.
Mais arrivent au bout de combien de temps ces bactéries?
Elles sont présentes et surtout elles sont favorisées par les milieux chauds, donc les aisselles,
le petit pullover.
Voilà.
Et alors ce qui est intéressant, et c'est le thème du dossier du magazine Né, la revue olfactive Né, c'est qu'on associe la propreté et la saleté aux odeurs. Et alors vous dressez une liste de ces choses qui sentent mauvais. Ça commence par les cheveux sales. Alors on y trouve quoi comme composant malodorant dans les cheveux sales?
Alors il y a pas mal d'acide gras dans les cheveux sales. On a de l'indole qui a une odeur fécale. Ce qui est drôle, c'est qu'on le retrouve aussi dans une fleur qui pourtant sent bon, le jasmin.
Ah oui.
Oui.
C'est pas le même dosage, quoi.
C'est exactement, voilà, c'est ça. Ça dépend des dosages. Il y a aussi de l'acide butyrique qui sent le fromage rance. Et dans la parfumerie, on utilise aussi ces molécules, et comme vous le disiez, selon les dosages. Et il y a aussi des ingrédients qui sentent le cheveu sale, comme le costus, qu'on utilise en parfumerie. Donc la frontière entre les bonnes et les mauvaises odeurs, elle est très ténue.
Ouais, c'est drôle ça. Je vais faire tous les tupus de la liste. Donc il y a les cheveux sales, il y a la sueur, les excréments, les flatulences, les pieds, l'urine et la mauvaise haleine.
On est bien, on n'a rien oublié là.
Voilà, on a tout. On est évidemment pas tous égaux face aux mauvaises odeurs.
Non.
C'est quoi? C'est de la génétique quand même. Il y a de la chimie là-dedans.
Il y a surtout. On a tous une flore bactérienne qui est unique. Chacun d'entre nous a une flore bactérienne qui fait notre signature.
Avec des millions de bactéries, c'est énorme.
Ben oui, et c'est microscopique,
ouais,
c'est
sûr.
Énorme. Ça vit sur nous, ça vit en symbiose avec nous, et ça dégrade notre sueur. On sait aussi que l'alimentation a une influence sur notre odeur, selon les épices qu'on va manger, le cumin ou l'ail et l'oignon vont parfumer notre haleine.
Mais c'est juste pour l'haleine. Ça peut parfumer la sueur.
Si vous faites un dîner à la mousse d'ail, par exemple, je peux vous dire que la sueur sent l'ail.
Un dîner à la mousse d'ail.
Mais oui, il faut faire des gags avec les copains des fois.
D'accord.
On fait des trucs. Quand on a des copains cuisiniers, on peut faire des trucs dingues. Par exemple, un week-end de mousse d'ail.
On mange que
de la mousse d'ail. Je peux vous dire que le retour en train. Le wagon est vide. Hein.
On a de la place
on
pour
est
s'allonger.
Personne ne vient avec vous.
Bah surtout, la décomposition de nos sécrétions par les bactéries va aussi créer des molécules qui sont présentes dans l'ail et dans l'oignon. Et donc, de toute façon, il y a un devenir, finalement, ail ou oignon de notre...
Il faut choisir. Je ne sais pas si je préfère sentir l'ail ou l'oignon des aisselles. Franchement, si vous me laissez le temps de la pause, je peux vous répondre.
On va essayer de vous laisser le nôtre. En tout cas, on a fait un peu de sale. On va s'intéresser au propre maintenant. Qu'est-ce qui sent bon? Et l'odeur, est-ce que c'est un marqueur social? Réponse tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL, première radio de France.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Le propre et le sale, c'est le thème de notre curiosité, d'un dossier passionnant du magazine Né. Delphine de Swart, vous signez l'un de ses articles, des articles de ce dossier. On se posait la question de la recette de la mauvaise haleine. C'est pas qu'on a envie d'en cuisiner régulièrement, évidemment, mais les ingrédients sont assez fleuris.
Oui, alors il y a d'abord tous les composés soufrés issus de la dégradation des aliments, en fait, de ce qui reste dans la bouche. Mais il y a aussi les mêmes ingrédients que dans les cadavres en putréfaction. Il y a ce qu'on appelle la cadavérine et la putrécine, donc comme son nom l'indique. Et il y a aussi un peu de scatol. Donc encore une fois, les noms sont très évocateurs pour cette mauvaise haleine.
Ah oui, c'est assez terrifiant. Donc cadavérine,
oui, vous allez la garder,
putrécine,
votre recette,
scatole, je l'ai noté pour un prochain dîner, on ne sait jamais. Delphine de soir, il y a plein d'expressions.
C'est vous, hein.
Non, je ne vous ai pas invité, ça tombe bien. Il y a plein d'expressions qui ont rapport avec les odeurs, avec le sale, le propre. Par exemple, quand on dit de quelqu'un, oh, je l'ai dans le nez celui-là.
Ouais. Généralement, on utilise les métaphores olfactives pour dire son dégoût des autres plutôt que son affection. Je peux pas le sentir celui-là, je peux pas le piffer. Généralement, on dit d'une situation qu'elle sent mauvais parce que elle est voilà. Ou alors
mal engagée. Oui.
Ça sent le sapin aussi. Généralement, oui. C'est mauvais signe.
Mais ça, c'est juste pour les personnes quand on dit je peux pas le sentir. Il y a une histoire de phéromone. On se sent entre nous. Il y a pas que le regard.
Oui, c'est l'instinct. Mais la question des phéromones, elle est plus controversé parce que si c'est vrai chez les insectes, chez les êtres humains, en revanche, l'organe détecteur des phéromones n'existe plus. Donc c'est à l'état de vestige chez l'être humain. Mais on a quand même des seuils de détection assez performants pour les odeurs. Donc on se sent les uns les autres, même si on se sent pas bien les uns les autres, mais on arrive à se sentir et à vivre ensemble malgré tout. L'odorat classe et discrimine.
Ah ça, on va en parler évidemment, Delphine de Swart. Je voudrais qu'on parle du propre. Le propre qui n'a pas la même odeur selon les régions du monde, c'est ça?
Oui.
Alors par exemple, chez nous, ce serait plutôt quoi en Europe de l'Ouest?
Le propre, c'est l'héritage d'une tradition. Donc, en Europe de l'Ouest, nous, on est les héritiers de la lavande, qui est la même étymologie que laver. La lavande, c'est on utilisait les sommités de lavande pour donner une belle odeur au linge, mais aussi l'eau de Cologne, parce que pendant très longtemps, on évitait les bains, les étuves. Il y a une fermeture des étuves pour des questions de mœurs, parce que c'était assez des lieux de débauche. Les hommes et les femmes se baignaient ensemble, mais aussi on craignait la maladie transmise par l'eau. Donc pendant longtemps, on ne se baignait pas. Et on utilisait une eau symbolique, cet alcool parfumé, dont on imprégnait un petit mouchoir, une petite toile, pour se décrasser,
on se lavait à l'eau de Cologne, en quelque sorte.
Cette eau de toilette, c'est cette eau parfumée qu'on met sur la petite toile.
Donc ça fait partie des odeurs associées au propre.
Complètement. C'est notre patrimoine olfactif. Donc la Cologne, c'est des aromates, des agrumes pour un bouquet très frais. Mais on a aussi des odeurs encore plus locales, comme par exemple en Allemagne, il y a un gel douche qui est très emblématique, qui s'appelle Badedas, qui a une odeur de sapin. Donc en Allemagne, c'est le propre est associé au sapin.
En tout cas, oui, le propre est associé au végétal, quoi. C'est des fleurs ou des agrumes, c'est ça?
Bien sûr, c'est encore toujours la même question de l'animalité devenir. On n'a pas envie d'un. Parce que les notes animales en parfumerie, c'est civet, castoreum, c'est issu des glandes sexuelles des petits animaux. Et je peux vous dire que ça sent terriblement fort. Donc en petite dose dans un parfum, c'est délicieux, ça laisse un sillage. Mais pour le propre à proprement parler, pardon, on essaye d'évoquer un territoire plus floral, plus agrume.
Alors, odeur végétale, on l'a bien compris, pour associer au propre, mais il y a aussi les odeurs artificielles. Le dihydromyrcénol, par exemple. Alors, je vais être honnête, je ne connaissais pas ce nom avant ce matin, et pourtant, je le sens tous les jours.
Oui.
C'est quoi?
C'est une molécule de synthèse qui a beau avoir un nom barbare, a une très jolie odeur, citrus, florale, qui a été développée dans les années 70 pour les lessives. Elle était très performante et peu chère, donc c'était une aubaine pour les lessiviers. Et à la fin des années 70, on l'a introduite en parfumerie fine, c'est-à-dire la parfumerie à base alcoolique pour le corps. Et c'est un phénomène qui est généralement inverse, c'est-à-dire que c'est souvent la parfumerie fine qui inspire la lessive, c'est-à-dire on retrouve des odeurs de Chanel numéro 5 dans la laque Elnette, par exemple.
Ah, j'ai jamais fait le rapprochement.
C'est drôle, c'est fou.
C'est ce qu'on appelle le trickle down. Et donc là, c'est un phénomène de trickle up, c'est-à-dire que les produits de consommation courante influencent la parfumerie fine. Et donc, il y a eu un premier parfum qui s'appelait Azzaro pour homme, qui contenait du dihydromyrcénol. Après, il y a eu Dracar Noir, puis Cool Water. Ce sont des parfums à structure fougère, c'est-à-dire aromatique, lavande et mousse de chêne, qui sont très forte pour la propreté masculine. C'est les odeurs qu'on aime sentir et qui sentent le propre sur un homme.
Dihydromyrcénol, on a appris ce mot.
Delphine de Swart, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le propre, c'est un marqueur social depuis longtemps?
Oui,
il classe et il discrimine, c'est ce que vous voulez dire.
Alors, j'avais lu un article sur l'odeur des pauvres dans l'Antiquité. Pour pas se faire détrousser, ils mettaient leur argent dans la bouche, ce qui fait qu'ils avaient une haleine métallique. Donc les pauvres puaient littéralement l'argent, ce qui est paradoxal pendant l'Antiquité. Plus tard, vers le XVIIIe siècle, l'imperméable, le parapluie n'existe pas, donc les classes sociales défavorisées sentent l'humidité, la laine mouillée. Et aujourd'hui encore, on a des distinctions. On se souvient du discours de Jacques Chirac, le discours de Vendôme, le bruit et l'odeur, qui avait beaucoup choqué, donc qui montre que l'odorat discrimine.
Et puis en 2013, au musée d'Orsay, qu'est-ce qui se passe pendant l'expo Van Gogh?
Alors il y a un couple qui avait été un couple et leur enfant qui avait été escorté par un bénévole de l'association ATD Carmonde qui voulait visiter l'exposition, et ils ont été sommés de quitter les lieux parce que leur odeur incommoder les autres visiteurs. Donc ça dit que finalement il est plus facile de constater la pauvreté par les yeux parce qu'on peut détourner le regard, mais en revanche l'odeur est persistante et elle pénètre et on ne peut pas y échapper.
Le propre et le sale, c'est donc une affaire de nez mais aussi de vue, par exemple au Moyen-Âge quand les sous-vêtements font leur apparition. A tout de suite les curieux.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h.
Avec mes garçons, les toilettes peuvent sentir parfois comme les toilettes publiques.
RTL.
Avant, la mauvaise odeur, je ne faisais que la masquer. Puis, j'ai essayé...
La curiosité est un vilain défaut.
Et ça marche. Ça sent frais et propre jusqu'à qu'il recommence. C'est la magie.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce soir, dans la curiosité, on distingue le propre du sale et on découvre que notre nez joue un rôle central. Pour ça, c'est la journaliste du magazine Nez, justement, dont le numéro 2 sort demain, Delphine de Swart, qui nous raconte comment les réactions chimiques et culturelles expliquent notre bonheur ou notre dégoût face aux odeurs. On va parler de sexualité, tiens, parce que en lisant cette revue olfactive, je découvre, on n'arrête pas le progrès, que l'odeur est devenue un outil de drague. Que propose le site Smell Dating?
Oui, généralement, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on choisit son partenaire principalement par l'odeur. Donc, c'est un filon. Et il y a une expérience qui est encore assez anecdotique qui a été menée par ce site, Smell Dating, qui est un site de rencontre, mais qui base le critère principal comme étant l'odeur.
Mais ça marche comment?
Alors en fait, en gros, la recette est facile. Vous portez un t-shirt, enfin on vous envoie un t-shirt, vous le portez pendant 3 jours et 3 nuits, sans déodorant, et ça la mention est très explicite sur le site.
Ah oui.
Et sans se laver non plus?
Ben oui, a priori.
Aïe.
Et ensuite, vous renvoyez le t-shirt, on le découpe en petits morceaux, là on l'envoie à des participants, et vous aussi vous recevez des petits échantillons de t-shirt portés par d'autres, et si vous choisissez l'échantillon de quelqu'un qui vous choisit en retour, vous le rencontrez.
Mais ça marche jamais, 3 jours, 3 nuits sans se laver, personne ne rencontre personne.
Après, je ne sais pas si...
Ah bah il faut accepter les règles du jeu. Mais sérieusement, est-ce qu'on tombe aussi amoureux de l'odeur de l'autre?
Oui. Oui, oui, bien sûr. On sait même qu'il y a il y a une inversion de l'aversion en amour. Les mauvaises odeurs deviennent parfois des fétiches et l'odeur des selles, l'odeur de fesses, c'est des choses dont on peut tomber amoureux.
Oui, comme des défauts dont on tombe amoureux et puis au bout d'un moment...
Parce qu'on peut parler de sexualité, quand on fait l'amour, on dégage des odeurs et ça fait partie de l'excitation aussi.
Oui. Oui, ça, en fait, trop propre, on n'est pas programmé pour ça. Hein. On est programmé aussi pour dégager et échanger des fluides.
Alors, trop propre, ça, on ne pouvait pas dire ça d'Henri IV. Qu'est-ce qu'il disait Henri IV à sa maîtresse, Gabrielle d'Estrée?
Alors, il était fou d'elle et il lui écrivait alors qu'il était en déplacement et en campagne, comme Napoléon l'écrira quelques siècles après à Joséphine. « Ne te lave pas, j'arrive, et dans 8 jours, je suis là. » Ça dit combien Napoléon ou Henri IV étaient fous des odeurs de ces femmes.
Henri IV qui s'est lavé très peu de fois dans sa vie.
Mais oui, parce qu'à l'époque, on ne se lavait pas, en fait.
Pourquoi?
On craignait l'eau, puisqu'elle était potentiellement vectrice de maladies. Et elle pouvait affaiblir les humeurs. Donc, l'eau, c'était pour les bêtes. C'était pas pour les hommes.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le vêtement, à partir du Moyen-Âge, donc on disait que le nez nous sert à distinguer le propre du sale, la vue aussi, à partir du Moyen-Âge, le vêtement joue un rôle là-dedans, et notamment les sous-vêtements. C'est quoi? C'est l'apparition. Alors, c'est un anachronisme de dire ça. On ne disait pas ce sont des sous-vêtements, mais c'est l'apparition du sous-vêtement au Moyen-Âge,
c'est ça? Oui, du linge de dessous. Oui. En fait, il est d'abord très finement tissé. C'est un petit linge qu'on peut changer. Enfin, c'est encore, on n'a pas, on ne sait pas exactement combien de fois le linge était changé, mais il pouvait être changé. Et au fur et à mesure des siècles, il apparaît. Le dessous se montre dessus, d'abord comme un liseré, puis après comme un col, comme des revers, des manches. Et le blanc de ce tissu est signe de propreté. La propreté à cette époque était d'abord visible. Voilà, c'est le blanc, la blancheur du linge qui est aussi censée absorber la crasse.
Ouais, c'est ça, les médecins pensaient que le linge absorbait la crasse.
Ouais. Et donc il fallait en changer.
D'accord.
Il fallait en changer pour à nouveau pouvoir être propre.
Quand est-ce que le propre devient vraiment un business super florissant?
C'est au XXe siècle, en fait, juste après la guerre. Et ça, un autre article du Grand Dossier. Je n'ai pas cité tous les articles, mais...
Le magasiné, oui.
Là, c'est toute une équipe qui a fait ce dossier. Et il y a un article de Béatrice Boisserie, justement, qui parle du tour du monde du propre et qui montre qu'en 1946, juste après-guerre, Procter & Gamble lance... deux savons.
Donc c'est les Américains.
Oui. Un pour le corps, un pour le linge. Donc à l'époque, c'est simple. Ça va très vite se compliquer. Il va y avoir de la spécialisation, une offre pléthorique. Mais à l'époque, c'est simple. Et donc, l'industrie des lessiviers, les grandes maisons de composition de parfums, les grandes marques vont apparaître au XXe siècle et toutes les campagnes de santé publique qui vont avec. Parce que c'est bien beau de proposer des produits pour laver, mais encore, il faut encourager à laver. Et il y a par exemple l'anecdote de la marque Listerine qui a forgé le terme « halitosis », « mauvaise haleine ». C'est un terme qui a été
médical presque.
Ça a des airs médicales parce que c'est des racines grecques. Et en fait, avant, on puait de la gueule. Et grâce à l'hystérine, on s'est mis à souffrir d'halitosis. Donc, du coup...
Ah, il y a une solution.
Il y a une solution qui est un bain de bouche proposé. On crée à la fois une maladie, c'est performatif, on crée une maladie et on propose son remède en même temps.
Alors, il y a aussi des odeurs qui sont... des odeurs de propre qui sont associées à l'enfance. Je vais faire un test à Sidonie avec une petite carte olfactive qui est proposée dans le magazine Nez. Je ne sais pas si ça va marcher. Alors, fermez les yeux. Voilà, je retire le petit scotch et vous sentez.
J'ai un odorat très sensible en plus.
C'est quoi ?
La lessive pour bébé, le linge propre.
Ouais, c'est pas loin, ça sent le crâne de bébé.
Ah !
C'est trop mignon.
C'est trop mignon.
Et ben voilà, on termine là-dessus. Merci beaucoup Delphine de Soie.
Je suis inquiète, ma fille s'en passe à, doit pas être assez propre.
On a aussi le lait de toilette ou le renvoi de lait.
Le renvoi de lait, je veux bien le faire, le renvoi de lait.
Tiens,
parce qu'il y a une petite fiche qui est fournie avec
c'est
le numéro 2.
Exactement ça, le petit vomito du jeune bébé.
Et donc c'est... Ah oui, c'est mignon ça. Et c'est fourni. Vous pensiez être sevré, c'est ce qu'il y a au recto de la carte. En tout cas, c'est fourni avec la revue Nez, la revue olfactive numéro 2 à sortir, publiée demain. Merci Delphine de Swart.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.